Belle chanson, belle à propos. Effectivement.
Tu m'as demandé les années 80.
Ah, bah, ouais,
j'ai
oui.
fait. Comme ah, quoi, c'est... je suis à l'écoute de ce que tu me demandes.
Mais, non, mais j'entends bien, et je te remercie. Hein.
Voilà.
Alors,
parce que malgré un espèce d'une moue de désapprobation au départ, là, de dire qu'est-ce qui m'a. Ah non, ça en fait j'aime bien.
J'avoue que j'aime bien. Ça
et puis, le fait que tu es chanteur en playback prouve que tu t'attendais à te retrouver à l'antenne.
Voilà, exactement. Alors, revue de presse, manga, des numéro 1 manga sorti ce mois-ci, toujours en collaboration avec le Bazar du Bizarre que nous saluons encore une fois pour cette bonne année, cette nouvelle année. Donc du coup, un choix, une sélection de 4 titres de manga dont les premiers numéros viennent de sortir. Donc on a un peu de tout et n'importe quoi, hein, comme d'habitude.
Ah, ça veut dire quoi ça?
Donc, voilà. Alors, nous avons toujours le shoujo du jour, ou de la semaine, ou du mois. Voilà. Choix toujours très très compliqué, hein, le petit choix de shoujo. Des fois, on se pose des questions quand même. Voilà. Donc, on va commencer donc, par le premier manga que je vais vous présenter ce soir. Voyage au bout de l'été, de Keiko Nishi. C'est aux éditions Akata. Et donc, du coup, c'est un one-shot. Hein, donc, c'est un récit unique qui vient de sortir. Alors, ça raconte... on est dans...
Alors, qu'un récit qui date de 2008, quand même.
D'accord. Donc, du coup, il cherche vraiment, en fait. Hein. Alors, et est-ce que cette Keiko Nishi, elle a fait autre chose en France ou pas? Tu peux me dire?
Alors, mais effectivement, je peux te répondre qu'elle a fait Aneno Keikon.
Ça me dit rien. Bref, non. C'est pas grave. Alors, donc oui, c'est sorti en France ou pas? Oui.
Alors, ça continue à sortir. On a 3 tomes sortis en cours sur 8.
Bon, bah écoutez.
Et c'est un titre de 2010, donc qui est sorti après.
Très bien, très bien. Alors, que se passe-t-il donc dans ce voyage au bout de l'été qui commence par une phrase qui va hanter un peu toute l'histoire? Avez-vous déjà entendu le chant d'une tortue? Alors, ça n'a aucun rapport avec ce qui est à l'intérieur.
Le titre non plus, d'ailleurs.
Le titre non plus, d'ailleurs. Hein. Oui, voyage au bout de l'été, oui, c'est vrai. Que se passe-t-il là-dedans? Eh bien, ça, c'est un récit qui s'adresse aux jeunes gens, aux jeunes hommes qui sont intéressés par dessiner des shoujo mangas. Hein, voilà, des mangas pour jeunes filles. Alors sachez que si c'est difficile en France, c'est aussi difficile au Japon. Hein, c'est pas rentré non plus dans les mœurs. Et on suit, entre autres, la route de Makoto, qui est un fonctionnaire, tout ce qu'il y a de plus bien sur sa personne, qui est secrètement dessinateur de shoujo manga. Voilà. Et donc, effectivement, étant un jeune homme travaillant sur ce genre de BD adressé à un public particulier quand même, il hésite, il ne sait pas trop s'il doit envoyer les premières épreuves de l'histoire qu'il a faite. Voilà, il est trop timide, il hésite. Il se trouve que donc, à ce moment-là, il croise la route de Kurea, qui est donc une jeune lycéenne, qui elle, du coup, se fiche complètement du shoujo manga, mais qu'à la faveur d'un oubli d'enveloppe, elle va avoir l'occasion de lire l'histoire de Makoto. Elle va être fascinée, en fait, par cette histoire, et elle va pousser le timide fonctionnaire à entreprendre un voyage vers Tokyo afin de postuler, en tout cas de déposer les premières épreuves de son histoire, donc dans une grande maison d'édition, pour être publiée. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les quiproquos vont s'en suivre, et l'histoire va devenir très compliquée pour tout le monde, très rapidement.
Voilà, alors sachant que ce sont les deux personnages de départ, mais qu'on va découvrir d'autres personnages au fur et à mesure, qui vont s'incruster dans l'histoire pour la rendre encore plus compliquée qu'elle l'est déjà.
Voilà, donc en fait, on suit en gros le parcours de 6 personnes, hein, et donc du coup, qui vont passer leur temps à se rencontrer, à se séparer, et toute cette personne-là faisant une histoire autour effectivement de Makoto et de Kurea, qui en plus vont être attirés l'un par l'autre, enfin voilà, et tout ça en moins de 200 pages. C'est assez étonnant puisque il y a des moments dans l'histoire où il ne se passe rien.
Ah bah ça, il y a...
Alors, c'est un manga un peu contemplatif quand même.
Alors, c'est très contemplatif. Le trait, graphiquement, c'est assez esthétique quand même.
Très très beau, oui.
Voilà. Le problème, c'est qu'on est typiquement sur un illustrateur et pas sur un narrateur. Et alors, c'est vrai que la jeune fille, elle dépose la cive régulièrement sur des planches parce que finalement, elle est là, donc elle parle, donc il faut la montrer... mais on ne sait pas quoi lui faire faire, donc elle prend des poses de chaudasse.
Tout de suite.
On a l'impression qu'elle est...
En représentation tout le temps.
Voilà. C'est presque comme si elle volait. Elle a toujours des positions alambiquées où, de toute façon, les pieds n'arrivent pas à toucher le sol. C'est de l'illustration. Ça ne sert pas la narration. Et effectivement, c'est pour moi la grosse faiblesse de cette histoire.
C'est qu'il n'y a pas de mise en scène, en fait.
Il n'y a pas de mise en scène. La narration n'est pas efficace. Et dans cet aspect vaudeville où tous les personnages se mêlent, on a du mal à comprendre où ils vont. Moi, en plus, quand j'ai commencé à le lire, il y a un moment où je me suis demandé, sur certaines scènes qui apparaissaient tellement déconnectées, si c'était pas la lecture des planches de la BD qui arrivait de manière maladroite.
Ah oui, je m'étais pas posé la question comme ça, effectivement.
Et moi, dès le départ, ça m'a un peu bloqué, parce que, effectivement, tu vois des personnages qui arrivent de nulle part, tu dis, elle est peut-être en train de lire les planches, ou voilà... Et du coup, ça m'a un peu embrouillé par rapport à ça. Après, c'est très esthétique, esthétisant même. Alors, ils ont tous des jambes de 100 mètres de long. Je pense qu'ils mesurent tous 2 mètres 30.
C'est des grands japonais.
Voilà, c'est des très grands japonais. Mais voilà. Bon, après, ils sont un peu énervants hein, parce que l'héroïne est un peu too much. Voilà. Lui, il est un peu les deux pieds dans le même sabot, on a envie de lui foutre un coup de pied dans le cul.
Il est trop timide.
Ouais, enfin, il est plus que timide.
Il est effacé.
Il est effacé, et puis bon, on voit qu'effectivement, son goût pour la jeune fille reste aussi très esthétisant et à distance.
Oui, enfin, du coup, la fin est un peu bizarre. Enfin, bref.
Mais il y a beaucoup de choses bizarres du début à la fin.
Donc, on sent une histoire qui. L'intrigue, c'est vraiment comment ce jeune homme et cette jeune fille vont publier ce shoujo manga, hein, qui est quand même l'histoire principale. Et puis, à ça, est lié des personnages qui passent comme ça. Donc, pourquoi ils sont là? Alors, il y a un lien entre tout le monde au bout d'un moment. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'ils apportent de plus, en fait, à l'histoire?
Bah, rien.
Voilà, donc c'est peut-être le grand reproche que je ferai sur ce manga. Après, oui, quand vous regardez sur la quatrième de couverture, c'est marqué Road Trip. Oui.
Road Trip, en même temps, il passe beaucoup de temps dans des hôtels à Tokyo pendant qu'il dessine.
Voilà, c'est vrai. Il y a des bus. Il y a cette histoire de bus. Alors, c'est un one-shot, tant mieux, parce que du coup, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus que ces 200 pages. C'est quand même beau. Hein. Il y a quand même des dessins.
Ah oui, non, mais là-dessus.
Mais on sent. Alors, je dirais juste qu'au niveau narration, c'est déséquilibré. Voilà. C'est pas. Ce n'est pas. Il y a un problème d'écriture, je dirais, en tout cas. Et donc, du coup, les personnages qui débarquent. Non seulement on ne sait pas ce qu'ils font là, mais on ne s'y attache pas forcément. On a l'impression que c'est des bouts d'un autre manga ou de plusieurs autres mangas qui se couperaient à ce moment-là, comme si le manga était... Vous voyez, Jean-Claude Letté, c'était un carrefour, en fait. Voilà. Donc ça, c'est bizarre.
Voilà.
Pas désagréable, mais étrange. Et on finit par avoir un sentiment un peu...
Et puis, en fait, il y a un peu en plus ce parti pris du... mais on vous dit que ça se passe en été dans le titre. Parce que comme ça, ils arrivent chez l'éditeur et vous ne demandez pas pourquoi ils ne retournent pas chez eux et qu'ils restent à Tokyo et que...
C'est les vacances.
Voilà. Enfin, lui, il est fonctionnaire. Il n'a pas les vacances scolaires. Hein. Enfin, autant elle est lycéenne, elle a 16 ans. Autant lui, voilà. Et puis bon, il y a aussi ce côté du « je suis un fonctionnaire ordinaire, quelconque ». Voilà. Il y a un moment où, à force d'amoindrir le personnage principal, on en perd l'intérêt. Il y a un couple qui fonctionne tellement bizarrement qu'on se demande pourquoi il la supporte. Quoi.
Tout à fait.
Au-delà du quiproquo de départ, il n'avait pas besoin de la garder. Voilà. Donc, graphiquement, ça fonctionne au niveau design. Après, effectivement, il y a un côté un peu fouillis qui laisse un goût de... Ça aurait pu être tellement mieux.
Voilà. Donc
6,99 et ça sort chez
Akata. Ah. Donc on passe à Wonderland de Yugo Ishikawa.
Vous avez compris le choix très judicieux de la musique.
Très judicieux, bravo. Donc il sort chez Panini Manga et tout de suite là on rigole. Le numéro 1 vient de sortir. Alors Wonderland. C'est une référence directe, donc effectivement, à Alice au Pays des Merveilles. Et donc on tombe dans cette histoire qui est clairement sur l'angle seinen, parce qu'il se passe quand même des choses plutôt violentes dans cette histoire. Et on suit, entre autres, l'histoire de Yuko, une lycéenne sans histoire, comme on dit. Sauf qu'elle est prise dans des événements un peu extraordinaires. Un beau jour, elle se réveille et elle s'aperçoit que pendant la nuit, elle a rétréci. Alors du coup, on se retrouve complètement dans un hommage à la fois à Alice au Pays des Merveilles, mais aussi à L'Homme qui rétrécit de Matheson, hein, qui est le récit d'homme qui rétrécit qui a marqué un peu tout le monde. D'ailleurs, il y a un film avec Matt Damon qui sort en ce moment sur le même thème, qui s'appelle Downsizing. Donc voilà, c'est un peu le même truc. Et donc, cette jeune fille se retrouve dans son lit, sauf que elle a diminué de taille, le monde n'est plus du tout à sa hauteur, et quand on dit diminuer de taille, elle n'est pas plus grande qu'une souris. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les souris, avec les souris dans notre univers moderne ? C'est que ces souris sont poursuivies par des chats. Voilà. En gros, c'est le début pour la jeune fille, une sorte de survival game, où elle va déjà essayer de sortir de sa chambre, ensuite de sortir de sa maison, et elle va essayer de sortir de la ville. Voilà. Pourchassée par tous les bestioles qui tournent autour de nous qui nous font pas peur quand on est dans une taille, quand on fait 1m60, 1m80. Mais les données changent complètement lorsque vous faites 50 cm.
Ouais, on ne fait même pas 50 d'ailleurs.
On fait 10 ou 15, ouais.
Compte tenu des monstres félins qui l'attaquent, de la taille qu'ils font, elle est plus près des 10 que des 50.
Voilà. Alors c'est une série qui risque de heurter les fans des chats.
Ouais, j'étais affreusement heurté.
Ouais, voilà. Parce que les chats sont vraiment décrits comme des animaux bien, bien méchants. Voilà. Donc Wonderland.
Avec par contre des chiens qui sont tous toujours gentils et qui restent fidèles à leur maître.
Oui. Il y en a un. Donc du coup, effectivement, donc sa jeune Yuko va se sortir de différentes situations. Parce que le chien de la maison, effectivement, qu'elle fasse des centimètres ou pas, a toujours l'odeur. Donc elle a toujours son odeur. Donc du coup, le chien lui obéit. Et là, on se dit déjà, tiens, un personnage qui rétrécit. On est vraiment dans le côté Alice au Pays des Merveilles. Elle prend la potion qui rétrécit et puis elle diminue. Et en fait, Yuko, c'est pas l'héroïne. C'est ça ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de trois chapitres, on s'aperçoit qu'il y a la vraie Alice qui débarque, en tout cas un personnage qui s'appelle Alice, qui dit elle-même que c'est Alice in Wonderland, et qui débarque dans le Cézou, qui est assez bizarre, et du coup, qui est une sorte de personnage rajouté. Encore une fois, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, et elle est juste bizarre.
Voilà. Alors, moi, ce qui me pose quand même problème dans cette histoire, c'est que du coup, le personnage de Yuko me paraît plus intéressant que celui d'Alice. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on aurait pu avoir quelque chose de pas inintéressant et que cette Alice arrive tout d'un coup en étant stéréotypée à mort, en donnant l'impression de complètement casser le côté réaliste que voulaient les deux premières scènes. Et c'est vrai que moi, ça m'a... Au départ, effectivement, quand tu m'as tendu le bouquin, j'ai fait Wonderland. Bon, on en a déjà fait, on en refera. Des histoires sur Alice au Pays des Merveilles.
Il y en a plein, voilà. Et il y en aura encore plein, j'imagine. Voilà.
C'est une source infinie d'inspiration. Reste à trouver comment en faire un truc original. Au départ, effectivement, les deux premiers chapitres donnent vraiment l'impression qu'on va avoir quelque chose de différent. Et là, la Alice arrive et on dit non. Non, mais pourquoi elle est là ? Parce que elle sort plus. En plus, elle semble plus sortie d'un jeu vidéo que du roman de Lewis Carroll. Et ça, effectivement, déjà, comment est-ce qu'elle arrive à fagoter comme ça ? Ça tient pas. Enfin, ça casse complètement ce côté réaliste qu'on avait. Et on est là et puis on dit pourquoi ? Voilà.
Alors après, effectivement, pourquoi elle arrive habillée comme ça, on s'aperçoit qu'elle a récupéré des trucs de poupée comme font les autres personnages en fait. Hein. Alors ça, ce qui est bien, c'est qu'elle a juste la taille pour récupérer des habits de poupée. Ça c'est cool parce que sinon ça serait quand même vachement plus compliqué.
Voilà. Alors sachant qu'a priori, il y en a qui ont rétréci avec leurs vêtements.
Voilà.
Le truc un peu trop facile, qu'on nous a fait 15 000 fois. Et le pauvre monsieur qui était sous sa douche et qui est obligé de s'habiller avec un carton.
Voilà. Bon, après, en même temps qu'on lit du comics avec Ant-Man, voilà.
Oui, mais... C'est... Voilà.
Oui, attends, bouge pas, je vais trouver... De... Oui, c'est des tissus, des molécules instables. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, voilà. C'est... Alors, par-dessus ça, donc, il y a donc ce personnage d'Alice qui arrive, qui ne parle pas japonais, à part deux, trois mots, hein, pour dire non et attention, a priori, et dire Alice... en japonais. Donc, est-ce que c'est une étrangère? Est-ce que... Alors, elle est habillée bizarrement. Hein, vous savez, c'est les filles habillées avec des oreilles de chat. Donc, on ne sait même pas si c'est ses vraies oreilles ou si...
Voilà. Elle a des crocs aussi.
Voilà, elle a des crocs aussi. C'est un personnage bizarre.
Il y a un côté cosplayeuse. Voilà. Ça m'avait... Ouais, enfin, voilà. C'est tellement un truc... Enfin, t'as l'impression de voir la mue arriver, quoi. Enfin, c'est... Il y a quelque chose qui... Le problème, c'est qu'effectivement, Alice est la verrue au milieu du tome pour moi. Et voilà, c'est vraiment... J'étais parti pour trouver ça... Enfin, avec un a priori négatif. Les deux premiers chapitres m'ont laissé espérer. Et effectivement, on est revenu après à son arrivée dans ce que je craignais.
Et puis en plus, voilà, il y a un certain nombre d'intrigues, hein, qui s'ajoutent au fur et à mesure, parce qu'en plus, il y a les militaires qui interviennent.
Oui.
Donc, et là, on se dit, le scénariste, la scénariste Yugo, oui. Elle a intérêt à avoir une putain d'explication pour expliquer comment ces personnes ont rétréci jusqu'à cette taille.
Voilà. Après, c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude des histoires... post-apocalyptique, etc. Sa première série Sprite a fait 15 tomes.
Tout à fait, ouais. Paris en français, effectivement.
Paris en
ouais.
français. Mais, à la limite, cette espèce d'intrigue politique pouvait amener à quelque chose. C'est juste que... on a l'impression qu'il y a cette référence qui est là pour rien. Mmh,
tout à fait.
Voilà.
Alors, après, on est en plus sur un dessin, là, ça se voit quand même beaucoup. On est un peu. Alors, cette série peut s'adresser aux gens qui sont intéressés par des séries comme I'm a Hero. Voilà. On est sur un peu le même type, un peu sur un survival.
C'est un homme.
C'est un homme, voilà. Donc, on est sur un survival avec effectivement un personnage poursuivi par une nature hostile, par des créatures un peu bizarres. Il y a beaucoup d'ordinateurs, et ça, on le voit vraiment. Sur la façon dont sont dessinés les personnages, dont sont dessinés les ombres, plus que sur d'autres mangas, ça peut forcément gêner peut-être un certain nombre de...
Après, les décors sont bien faits.
Oui, mais les décors sont faits sur ordinateur, en fait.
Oui, oui, non, d'accord, c'est clair. Les animaux sont très bien faits, on sent que ça fait partie de son plaisir de dessin.
Mais attention, les chats sont très méchants.
Les chats et les corbeaux.
Et les corbeaux aussi. Voilà.
D'ailleurs, il n'y a pas d'autres oiseaux, il n'y a que les corbeaux.
Les corbeaux n'aiment personne. Par contre, les chats sont très très méchants. Même le chat de la maison, qui la connaît bien, voilà, c'est le titre, mais...
Il joue, enfin, c'est les débuts, hein. Il est sadique avec ses maîtres comme avec des souris, quoi. Voilà.
Donc n'oubliez pas, si vous aimez vous rétrécissez, méfiez-vous des chats.
Méfiez-vous des chats tout le temps.
Tout le temps. Voilà. Donc, c'était Wonderland, hein, de Yugo Ishikawa chez Panini Comics. Donc, ce qui pose un autre problème chez Panini Comics, c'est déjà le prix. Je crois qu'on est à 8,95 €. Et de plus, vous devez, si ça vous intéresse, vous devez vous dépêcher de l'acheter avant que ça tombe en rupture de stock.
Enfin, j'ai 8,99 €. Le deuxième tome est sorti prévu pour le mois de mars. En sachant que du coup, le dernier tome venait de sortir au Japon en novembre. Donc voilà, ils ont attendu que ce soit terminé pour nous le sortir.
Donc c'est en combien de volumes?
C'est en 6 volumes.
Voilà, 6 volumes terminés au Japon. Et ça vient juste de commencer en France.
Tout à fait. Alors Alain est en train de se bercer dans cette musique fabuleuse, mais du coup, il en oublie de reprendre.
Ah non, 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 j'ai écouté.
Ben,
alors, nous tombons là donc sur notre troisième manga qu'on va vous présenter. Silver Wolf, Bloodbone, donc par Tatsukazu Konda et Shimeji Yukiyama, et a priori ça doit être l'adaptation d'un roman quand même, je pense. Donc ça explique peut-être la qualité de l'histoire quand même. Alors, on suit les aventures dans ce numéro de Hans Vapet, plus connu sous le nom de Silver Wolf. Voilà. Donc un chasseur de monstres, un chasseur de monstres, retiré des affaires. Voilà, il y a 40 ans, il est arrivé dans cette ville là, dans laquelle se passe l'histoire. Cette ville était à l'époque dominée par un clan de vampires, et autour de lui, il a monté une sorte de groupe de tueurs de vampires qui ont fini par vaincre les méchants. Et du coup, voilà. Et Vapet, c'est vraiment donc le Silver Wolf, hein, on l'appelle comme ça parce qu'il a des cheveux argentés. C'est une légende. On a vraiment tout au long de ce manga, alors je dirais un peu, c'est un peu proche de Dark Knight, le héros à la fin de sa vie qui a sa légende, que tout le monde attend au tournant, et le dernier combat s'annonce, et il va devoir être à la hauteur de sa légende.
Et puis il a quand même réussi à battre tous ses ennemis, parce qu'en fait, c'est un chasseur de vampires dans un monde où on nous annonce d'emblée que les vampires n'existent plus.
Voilà, parce qu'il les a butés.
Ça prouve quand même le talent du mec.
Voilà. Et bien sûr, donc il y a un nouveau monstre en fait qui débarque, pas forcément un vampire, et qui va défier en fait Silver Wolf en laissant sur son chemin pas mal de cadavres. Et donc les événements vont forcer Vapet à sortir de sa retraite, de reprendre une dernière fois son arme et de parcourir les rues afin de battre cet ennemi. Et méchant comme gentil, comme innocent passant de la rue, attendent de lui qu'il les sauve, quoi. Voilà, c'est quand même assez impressionnant, et c'est très bien rendu. Hein. Donc il y a plein de choses qui se passent, et ce que je garderai surtout de ce manga, c'est effectivement une construction de personnages plutôt intéressant. Surtout, on sent bien que dans son passé, il y a plein de choses en fait qui vont lui exploser au visage. Hein. Voilà, et on sent que ses ennemis ont attendu qu'il soit trop vieux pour revenir se venger de ce qu'il a fait. Voilà. Donc, on sait, il parle de sa femme, il parle de certains de ses amis qui sont morts, et on sait que voilà, c'est le passé va revenir, quoi.
Non, mais il y a quand même des choses qui. Alors, paradoxalement, j'ai envie de dire que ce qui m'a le moins marqué, ce sont les scènes de combat, qui sont beaucoup plus classiques, où il utilise un espèce de grand marteau qui est visiblement pas pratique du tout et qui ne paraît pas être une arme très pertinente parce qu'elle est très lourde. Voilà, il y a ça effectivement qui d'un autre côté... Alors, on est très dans une logique animation, hein, c'est le fait d'avoir ce genre d'arme énorme, pourquoi pas. Mais... il y a des choses par contre qui fonctionnent vraiment dans l'histoire. La caractérisation de tous les personnages sont très bons. La première victime qui va évidemment ne va pas faire long feu, elle est très vite et très bien caractérisée. Ça, c'est quand même une réussite.
Voilà. Et puis surtout, on a un vrai méchant en face. Ah, je ne vais pas dans le détail. Hein. Alors là, tous les putters sont à fond, il n'y a pas à se poser la question de 10 000 ans, il est vraiment très méchant.
Alors voilà, en même temps, il est très archétypal, c'est juste le « je suis un beau gosse méga dangereux
». Oui, mais ça marche.
Après, du coup, le côté monstre fonctionne moins bien, parce que je trouve que le design en tant que monstre est un peu too much, à l'image du marteau. Et du coup, dès qu'ils arrêtent de se battre, on dit « ouais, il y a quelque chose, ouais, les personnages fonctionnent ». Même le personnage de la femme flic, qui finalement, pourrait être un élément de décor et qui fonctionne et
qui sert à
auquel on s'attache.
Voilà, qui sert à montrer surtout comment à quel point Silver Wolf est une légende et comment tout le monde compte sur lui en fait.
Voilà.
C'est vraiment la légende. Voilà. Alors, juste
après, ce qui m'amuse un peu, alors, c'est notamment valable dans le look du vilain. On est sur le. Je suis un beau gosse méga racé en costard.
C'est important.
Me fait un peu penser à ce qu'on avait en comics dans les années 90 sur Witchblade. Mm-hmm. Sauf que c'est vachement mieux écrit que les Witchblade des années 90.
C'est... Alors, donc, juste ce qui est marrant, c'est que aussi, effectivement, vous avez un grand bandeau sur le titre Silver Wolf.
Ah oui.
Où c'est marqué
énorme.
En gros Hiromu Hirakawa. Donc, du coup, vous dites ouais, super, le nouveau manga de l'auteur de Full Metal Alchemist de Arslan. En fait, non, pas du tout. C'est juste le manga recommandé par elle. Et là, on est à la limite du
foutage de gueule.
Du foutage de gueule. Après, effectivement, ce premier manga se laisse lire avec un personnage qui est assez intéressant puisque du coup, pour une fois, on a un héros à la fin de sa vie.
Ouais.
Et très clairement, dès le départ, il dit waouh, ça va être compliqué de battre le méchant, hein, qui lui quand même est super fort. Et au départ, le personnage, il n'y arrive pas.
Non, et puis, en fait. Il y a un moment aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, on en est à 7 tomes actuellement, le deuxième ne sortira qu'en avril, mais on se rend compte que même les personnages qui vont arriver au départ, par la suite, ils ont une importance. Mmh. On voit aussi qu'on est sur une histoire qui vient de la prépublication, parce qu'on n'a pas un tome qui forme un ensemble. Chaque chapitre va vraiment apporter quelque chose. De chapitre en chapitre, on voit des personnages arriver. Et en même temps, on sait qu'ils vont avoir un rôle parce qu'ils sont... Enfin, on sait. Non. Ils sont suffisamment bien caractérisés pour qu'on se dise ils savent ce qu'ils vont en faire, ils vont avoir un rôle. Sauf que le premier personnage qu'on nous a introduit, on nous l'a vachement bien caractérisé et elle ne saura jamais ce qui s'est passé.
C'est clair.
Voilà. Donc... Et ça, vraiment, c'est aussi l'intérêt, c'est que ce premier personnage, on comprend qu'effectivement, on va nous amener des personnages qui vont tous avoir ou pourraient avoir un rôle dans l'histoire et qu'à la fois, ils vont pas forcément... C'est pas parce qu'on nous met le personnage et qu'on nous montre des choses dessus qu'il va pas mourir avant la fin.
Voilà, c'est côté un peu de danger aussi, effectivement. Voilà. Nous passons enfin au dernier manga dont nous allons vous parler ce soir.
Alors, juste, on rappelle peut-être le prix de Silver Wolf.
7,65€.
Voilà, donc, mais ça les vaut largement.
Ouais. Et donc on va parler donc de la dernière sélection, King of Eden, donc par Takashi Nagasaki et Inito. Alors c'est marqué le nouveau thriller de l'auteur de Master Keaton, Pluto et Billy Bat. Enfin, il était co-scénariste hein, sur les titres, puisque Takashi Nagasaki travaille avec Urasawa, qui est le dessinateur scénariste de ces séries-là, donc il co-scénarise avec lui. On est parti là sur une série international, puisque donc Takashi Nagasaki est japonais. Et Inito, le dessinateur, est coréen. Et du coup, on a un personnage coréen et un personnage japonais dans l'histoire. Donc ça, c'est assez marrant. Alors, de quoi ça parle ? Donc, tout autour du globe, il y a un certain nombre de petits villages qui sont détruits au fur et à mesure, hein, brûlés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. On est dans un univers moderne, contemporain. Et les différentes forces policières, en fait, qui enquêtent sur ces enquêtes-là, cette destruction-là, s'aperçoivent au fur et à mesure qu'il y a une même cause commune. Il y a une sorte d'arme bactériologique qui est à chaque fois déployée dans ces villages et qui transforme les habitants en sorte de tueurs psychotiques qui se tuent les uns les autres et qui, voilà, et quasiment toujours à la fin, il y a toujours, donc l'histoire se finit dans les flammes, donc le village brûle parce que en plus, on s'aperçoit qu'il y a toujours un personnage qui est là, une sorte de grand brun en par-dessus, en trench coat, assez sombre, assez glauque, quoi, qui semble être le facteur commun à tout ça. Et du coup, entre autres, Interpol va partir à la recherche d'une spécialiste qui s'appelle la docteur Itsuki, puisqu'on s'aperçoit que cette maladie aurait un lien à des anciennes découvertes archéologiques. Et donc, Itsuki va être, intégré au MI5, récupéré par MI5, pour justement poursuivre ce mystérieux bonhomme qui apparaît à chaque fois lors de ces incendies. Et très rapidement, toutes ces personnes vont se retrouver embringuées dans un mystère archéologique avec la résurgence d'une maladie qui avait disparu depuis des siècles, voire des millénaires, et dont les effets risquent de se répandre sur la planète. Donc au fur et à mesure, on glisse un peu dans une ambiance apocalyptique, puisqu'il y a un certain nombre il y a un marchand d'armes qui a mis la main sur ce virus et qui est en train de le vendre au fur et à mesure à différentes forces de terroristes. Très rapidement, on est dans une ambiance à la fois mi-fantastique. Est-ce que c'est une maladie extrêmement, extrêmement virulente qui transforme les hommes en tueurs, ou est-ce que c'est une sorte de malédiction venue de Dieu? Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Sauf que les forces de l'ordre se rendent compte qu'il faut très rapidement qu'ils remontent à la source de cette maladie, parce que sinon ça va quand même très mal finir.
Alors graphiquement, effectivement, c'est assez réussi. En même temps, ils prennent leur temps. Enfin, la série, on est à 4 tomes elle commence en 2014, on en est à 4 tomes en Corée. Donc autant dire qu'à raison d'un tome par an, on va très vite rattraper le rythme, puisque le premier tome est sorti la semaine dernière, et que le tome 2 sort déjà en mars.
Voilà. Donc cette série s'adresse vraiment aux gens qui sont intéressés par le dessin d'Urasawa, parce que Inito dessine comme Urasawa dessine. Hein. C'est vraiment... C'est quand même important pour l'identité graphique.
Voilà. Il y a d'ailleurs tout un premier chapitre qui est étonnant, parce qu'il y a eu un choix de le sortir en couleur. Et à la reprise, qui ne s'était pas rendu compte que le premier chapitre était en couleur.
Oui, d'accord, en plus, oui. Oui.
Et en fait, on est sur des couleurs qui sont... Enfin, qui jouent sur du niveau de gris.
Oui, bizarre.
Mais ça donne une ambiance... Mais du coup, la transition avec les pages en noir et blanc après se fait très naturellement. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire les 4 tomes, donc j'ai voulu commencer par ceux qui m'inspiraient le moins. Et du coup, paradoxalement, celui-ci, qui est peut-être celui qui m'inspirait le plus, est celui que je n'ai pas eu le temps de finir. Mais effectivement, le premier chapitre, je suis rentré dedans aussitôt. Le deuxième, je crois que je suis tombé de fatigue et que je commençais à lutter. Mais effectivement, ça reste d'une maîtrise technique, graphiquement comme scénaristiquement. Hein, le premier chapitre, que je l'ai vraiment apprécié et dévoré. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais voilà, on part là aussi sur une intrigue qui risque d'être assez touffue.
Oui, puis qui peut être étendu, ça peut être dilué un petit moment quand même.
Oui,
voilà,
tout à fait.
Là, ils sont quand même un peu tout autour du monde. Et là, vous dites, il peut y avoir pas mal de fausses pistes et pas mal de passages où il ne se passe pas grand-chose, où on est en contemplation.
Et voilà. C'est vrai que du coup, le fait qu'il n'y ait que 4 tomes en 4 ans est un peu inquiétant pour ça.
Voilà, c'est que c'est une série qui risque de durer un petit moment.
Voilà, par rapport effectivement à Silver Wolf, on s'attend effectivement à un rythme plus soutenu. Là, on est quand même sur une série qui va... dont on risque de ne pas avoir la fin, même en 2019.
Voilà, ça risque de durer un petit moment, effectivement. Voilà.
Donc, c'est un peu ce qui, moi, me retiendrait sur ce titre. Après, effectivement, je lui reconnais des qualités graphiques et scénaristiques. N'ayant pas été jusqu'à la fin du tome, je vais me garder d'avoir un avis tranché. Mais ça reste, effectivement, quelque chose d'une très bonne facture. Voilà, on va revenir sur les 4 tomes du jour.
Tout à fait.
Alors,
donc, Voyage au bout de l'été de Keiko Nishi, shoujo manga qui est sorti aux éditions Akata en volume unique, hein, une histoire de 200 pages. Beau dessin, mais en dehors de ça, l'histoire nous a posé...
fouillis.
Voilà, un peu fouillis, un peu trop peut-être, mais voilà. Wonderland, donc de Yugo Ishikawa, chez Panini Manga, numéro 1 vient de sortir. Encore une histoire autour d'Alice au Pays des Merveilles, qui se passe dans un univers moderne, contemporain, avec un personnage, enfin tout un des habitants d'une ville qui sont réduits à une taille lilliputienne et qui doivent donc se battre contre la nature qui est autour d'eux. Ambiance survival, encore une fois, c'est très violent. Atmosphère qu'on peut encore retrouver un peu effectivement dans les mangas zombies hein, que vous avez pu lire peut-être par-ci par-là, avec un personnage d'Alice qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui déraille un peu l'histoire.
Et qui patauge comme un cheveu sur la soupe qui vous coupe l'appétit.
Voilà. Silver Wolf, Bloodbone, de Tatsukazu Konda et Shimeji Yukiyama, ça sort chez Kurokawa, l'histoire d'un vieux chasseur de vampires qu'on oblige à ressortir de sa retraite parce que du coup il y a un nouveau monstre qui a débarqué en ville et qui s'embarque peut-être pour sa dernière aventure car il n'espère pas en revenir vivant. D'ailleurs, c'est bien simple, avant de partir à l'assaut de ce grand méchant, il a demandé à refaire son testament, ce qui fait que voilà, il n'a pas vraiment beaucoup d'espoir de revenir. Et enfin, King of Eden de Takashi Nagasaki. Donc Takashi Nagasaki et Inito, un thriller mystique tout autour du monde avec un virus qui est aux mains d'un marchand d'armes et avec deux groupes très différents à la poursuite effectivement de ce virus et qui ont bien dont l'un des groupes va éliminer toutes les preuves de l'existence de ce virus, quitte à brûler des villages pour garder le secret sur cette infection.
Très bien. Donc, question rituelle, si tu ne devais en garder qu'un.
Je garderai Silver Wolf parce que j'aime bien le personnage. L'histoire du vieux héros sur le retour et qui est prêt pour son dernier combat, ça me touche.
J'en arrive au même résultat que toi, même si du coup, ce n'est pas ce qui me concerne sur le côté identification à un mec sur le retour. on en est sur la même analyse.